débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Michel, associé chez Ixos Formation, Guillaume Richard, président du groupe de services à la personne WeCare, et Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Alors j'ai plein d'auditeurs qui m'expliquent pourquoi eux, ils ne pourront pas avoir une voiture collective. Chacun me raconte son histoire. Je rentre dans la vie privée. Alors oui, je vous cite deux
réactions. Je les comprends tout à fait, mais qu'ils attendent avec impatience la sortie, ils verront qu'il y a des solutions.
Olivier m'a écrit, il vit en Chine, il nous écoute en podcast, il a voulu me donner ses réflexions sur ce qui est devenu la Chine entre 2000 et aujourd'hui. Un mail très intéressant, un peu fleuve. Et puis également réaction de Armand, qui n'en peut plus d'entendre des solutions fiscales pour sortir à la France par le haut. Il a dû réagir. Bon, il réagit notamment à tout ce qu'on s'est raconté la semaine dernière. Je vous ferai ma liste à la Prévert. C'était merveilleux. Et il dit d'ailleurs à un moment, quand Monsieur Daniel partira, j'espère pour lui et moi le plus tard possible, je fermerai mon vieux transistor et descendrai comme lui dans la cave.
Oula.
sur les solutions fiscales, juste un petit rappel.
Pas maintenant.
On va
le faire.
Non, mais c'est juste que
Agnès.
Non, mais moi j'entends ce que dit ce monsieur. Mais juste, qu'est-ce que fait un État? Il collecte de l'impôt pour assurer un certain nombre de services
c'est
en fonction. Non, mais je veux dire, historiquement, c'est ça. Au début, c'était pour l'armée, la sécurité, mais
c'est ça, historiquement, un État.
Donc, à un moment donné, ce monsieur pourrait envisager de vivre dans un modèle anarchique, mais remettons un peu.
Entre l'anarchie et le record du monde des prélèvements,
sur les impôts. De temps en temps, vous me permettrez d'aller dans l'autre sens pour rééquilibrer un peu les choses.
On va parler un peu fiscalité, parce que bon, ça m'a amusé tellement c'était presque caricatural, nos solutions la semaine dernière. Et après tout, je suis comme mes invités, je pense qu'on n'y coupera pas. Assurance chômage, réforme, un mot dessus.
Je rebondirai juste sur ce qu'on a fait il y a 2-3 mois, Nicolas, sur ce plateau. Je rebondis sur la réforme de l'assurance chômage.
Oui.
Vous avez parlé de l'Unédic, vous avez parlé des intermittents du spectacle, vous avez parlé de France Travail. La première chose qu'il faut faire une bonne fois pour toutes, c'est qu'il faut arrêter de centraliser les budgets. Je le redis, vous retrouverez le podcast. On arrête de faire ça. Et si on doit faire des économies, Guillaume, de 3, 4, 5 milliards sur le travail, il est hors de question que cet argent aille combler un trou dans une autre poche de l'État, comme l'appelle Agnès. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à optimiser chacune des branches fondamentales d'un droit ou d'un devoir, on l'appelle comme on veut, dans notre République. Le travail est une chose extrêmement importante. Donc si on doit faire des économies, si on doit pressuriser ou motiver, on l'appelle comme on veut, plutôt vert à moitié vide, plutôt vert à moitié plein, des gens qui sont en difficulté. Parce que perdre son travail, je vous le partage, c'est 7% les gens qui trichent avec les assédiques. Donc c'est rien en fait, c'est rien du tout. Moi je dis, la totalité des budgets qui sont économisés, dans les premiers mois, les premières années, on les met sur la formation, sur l'accompagnement à retrouver un boulot, sur les longues périodes de chômage où on sort complètement socialement du rapport avec ses voisins, au travail, etc., etc. Et ça, c'est hyper important. Personne ne veut le faire, ça, Nicolas. On veut faire des économies pour les 125 milliards qu'on doit au global.
Il y a des mécanismes comme les entreprises à but d'emploi qui sont dans les territoires, dans celui où je vis, par exemple. C'est extrêmement efficace pour amener des gens vers l'emploi. Et là, pour le coup, c'est une méthode douce. Moi, je pense que ces méthodes d'accompagnement sont beaucoup plus intéressantes que le bâton.
Et on peut privatiser une partie de ces accompagnements en subventionnant des entreprises à caractère non lucratif.
Mais des entreprises.
Toutes les entreprises n'ont pas des buts lucratifs, Agnès. C'est la notion d'entreprendre qui est importante.
En l'occurrence, ce sont des entreprises et donc elles ont vocation à être à l'équilibre, pas à faire du profit, mais à être à l'équilibre.
On subventionne plutôt qu'on indemnise.
Le sujet est sur le terrain politique là, et on se souvient d'une proposition de loi de Liotte qui avait donné lieu à une motion de censure qui était quasi passée à 9 voix près. Donc bon, il faut suivre au Parlement ce qui va se passer, mais la détermination de Catherine Vautrin d'aller jusqu'au bout de l'histoire par décret le 1er juillet est, semble-t-il, bien installée. On aura normalement dans les jours qui viennent les détails très précis des paramètres qui vont évoluer. Mais comme le disait effectivement Guillaume, on a un système qui reste très nettement plus clément que la plupart des pays de l'OCDE, puisque pour avoir le maximum d'indemnisation aujourd'hui en France, il faut avoir travaillé 24 mois, le maximum d'indemnisation, et aux Pays-Bas c'est 30 ans par exemple. De travail. Donc c'est pas la même chose. En Espagne ou en Italie, c'est 2 à 4 fois plus. Et pareil sur la durée d'indemnisation, la moyenne est plutôt aux alentours de 12 mois, quand on indemnise encore 18 mois. Mais bon, avançons. Justement, l'apprentissage, Guillaume Richard, ça marche très bien, mais ça coûte très cher. Et puis, il y a eu le rapport de l'OFCE, de Bruno Coquet, printemps dernier, qui constatait quand même que probablement, il faisait le bilan 2022, sur l'ensemble des quelques 460 000 contrats signés cette année-là, il estimait qu'il y en avait environ 200 000, 210 000 qui auraient, quoi qu'il arrive, existé s'il n'y avait pas eu un système d'aide de l'État à 6 000 euros l'embauche. C'est pour ça que, comme là, on est en train de courir après les milliards d'euros comme des morts de faim, comme jamais d'ailleurs, eh bien, il est possible qu'une réforme de l'apprentissage intervienne. Deux pistes sont évoquées, sans qu'aucune ne soit arrêtée pour l'instant. Soit on réduit le montant de l'aide à l'embauche en fonction du diplôme des gens. Là, il est 6 000 euros, c'est pour les moins diplômés. Et puis, à Bac plus 2, c'est un peu moins. Et puis, à Bac plus 4, c'est un peu moins. Ou alors, on décide qu'on supprime les aides à l'embauche pour ce qu'on appelle les grands groupes. Vous disiez, et ça, et c'est un parent pauvre de notre politique de l'emploi, l'accompagnement. Beaucoup disent, écoutez, ça coûte cher, mais ça marche. Waouh, gardons un truc qui fonctionne. Et d'autres disent, non, ça coûte trop cher avec trop d'effets d'aubaine. Alors, où est la frontière de l'effet d'aubaine supportable? Toujours le même sujet.
Il y a obligatoirement un effet d'aubaine, mais je voulais surtout m'intéresser à deux points qui ont été soulevés. Le premier, c'est grande entreprise. Une grande entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise qui a plus de 5000 collaborateurs.
C'est ça, c'est au-delà de l'ETI.
Moi, mon entreprise, j'ai 20 000 collaborateurs. Et je fais 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je fais un résultat qui est même pas... Enfin, le résultat net qui est à quelques millions. Quel est mon rapport entre moi et Total? Il n'y en a pas. Et le seul critère, c'est ceux qui créent le plus d'emplois. Donc, à un moment, baser un critère et dire ceux qui créent beaucoup d'emplois, on va les pénaliser, je trouve que ce n'est pas très malin dans un système lié à l'apprentissage. Et le deuxième point, c'est sur est-ce qu'on doit avoir le même niveau d'aide entre une personne qui est absolument non qualifiée et qui va rentrer sur des qualifications très basses et quelqu'un qui est très qualifié et qui, de toute façon, en sortie, va avoir des salaires importants. Eh bien, très clairement, l'impact pour l'entreprise, il n'est pas du tout le même. Si je prends quelqu'un qui est en très grande école de commerce, est-ce que j'ai besoin d'avoir les 6 000 euros pour lui proposer de venir bosser dans mon entreprise d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de je sais pas quoi? Est-ce que ça changera quoi que ce soit si j'ai les 6 000 euros d'aide ou pas? Franchement, non. Parce que de toute façon, j'ai besoin de cette personne en sortie. Et deuxièmement, elle me coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher en apprentissage que si j'avais embauché un jeune diplômé. Référence au cabinet de audit et audit comptable, où on va vous facturer le prix d'un apprenti, exactement le même prix qu'un jeune diplômé, et pour autant ça coûtera beaucoup moins cher. Donc c'est pas les 6000 euros sur ces Bac plus 5 qui va changer grand chose. Par contre, sur des CAP, oui, ça change beaucoup. Et c'est là où
je peux vous affirmer que ça bougera pas pour les CAP. C'est évident qu'on va garder l'aide pour les CAP. Après, est-ce qu'il y aura une sélection en fonction des tailles d'entreprise? On verra, mais...
La taille d'entreprise, à mon sens, n'est pas le bon critère.
C'est pas le bon critère.
C'est-à-dire, à la rigueur, regardons le résultat, le chiffre d'affaires, etc., etc., mais le nombre de salariés, on ne peut pas, en fait, mettre des contraintes exclusivement liées à un élément qui était le nombre de salariés, qui avait du sens à une époque où... La quasi-totalité des entreprises étaient des entreprises industrielles. Et effectivement, une entreprise industrielle de 5000 collaborateurs, c'est une très grande entreprise. Mais une entreprise de service, dans le nettoyage, service dans les services à la personne, etc., à 5000 salariés, n'est pas forcément une très grande entreprise et n'a pas forcément des marges très importantes.
C'est régulièrement Sylvain Aurébi qui est à la tête d'une ETI, lui, qui a dénoncé ici le fait que en France, une entreprise, lorsqu'elle grandit, eh bien, plus elle grandit, plus elle est pénalisée.
Absolument.
Il y a un moment, c'est
plus elle a des salariés. Non, mais plus elle a des salariés, plus elle recrute.
Alors, d'accord avec l'idée, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, d'accord avec l'idée que c'est probablement sur les niveaux de diplôme qu'il faut cibler l'aide publique.
Oui,
c'est ça.
Il faut toujours privilégier les personnes qui sont plus éloignées de l'emploi.
C'est ce qui sera fait, quoi qu'il arrive. Ça ne changera pas pour les gens sans qualification.
Mais effectivement, pourquoi favoriser des personnes qui, de toutes les façons, n'ont aucune difficulté à accéder à l'emploi? Pourquoi dépenser de l'argent public là-dessus? C'est un petit peu comme la fin de la taxe d'habitation les personnes les plus aisées. Pourquoi?
C'était anticonstitutionnel, Agnès. Voilà. C'était anticonstitutionnel de garder un impôt pour deux Français sur 10. À côté de ça, vous dites effectivement, des gens qui n'ont aucun problème, faut-il les subventionner? On se rend compte que on a un problème avec l'emploi industriel en France, parce que justement, l'emploi industriel qui n'a pas les mêmes allègements de cotisation et qui est déplafonné passé un certain niveau de salaire en termes de cotisation est un emploi qui coûte très cher. Et c'est pour ça qu'on se félicite des investissements directs étrangers et on se déplore de voir qu'on n'a pas les mêmes nombres d'emplois créés par projet que dans les autres pays. Parce que l'emploi très qualifié est cher. Donc, voilà. Bon, j'ai un peu digressé. Je parle pas de l'apprentissage, mais
C'est le principe de formation. Mais c'est aussi le nombre de personnes formées disponibles. Il y a sûrement un souci là-dessus.
Je peux apporter juste un truc.
Oui, allez-y.
Juste une remarque. D'abord, vous avez commencé, mon cher Nicolas, à dire ça marche, mais c'est cher. Bon, au moins déjà, on sait que c'est cher, mais au moins ça marche. Donc pour une fois qu'en France, on subventionne quelque chose cher qui marche, on parlait des SNCF tout à l'heure, mais je rigole.
C'est ce que me disent mes invités qui pensent que c'est pas le moment d'y coucher.
Je vais pas aller sur l'éducation nationale, parce que comme c'est les entreprises aujourd'hui qui doivent former à la place de l'éducation nationale les futurs travailleurs, mais peu importe, c'est cher, mais ça marche. Donc on va faire des économies, puisque ça marche, on va le casser. Bon, ça c'est juste ce que je voulais dire. La petite remarque que je ferai, moi j'ai toujours eu une TPE parce que mon métier du conseil financier fait que je suis dans cette cible plutôt bac plus 5, donc j'ai pas il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne me prononce pas, sur les conflits sociaux, les choses comme ça, parce que ça se passe globalement bien. Je dis juste attention quand même, Guillaume, sur la notion de taille et des diplômes. Je pense que beaucoup de mes confrères qui ont des micro-entreprises, souvent c'est 3-4 personnes, et ont tous 1-2 alternants, on va dire ça comme ça, un ou deux futurs collaborateurs. Ils n'ont pas encore fondamentalement les moyens de se passer de ces quelques aides. Et je peux vous demander, si vous rapprochez des grands groupes comme l'INSEC, CAGE, les écoles de commerce qui forment des masters dans mon métier, c'est pas si simple que ça quand on a 22-23 ans, même avec un bac plus simple, de trouver ce type d'emploi qui est en fait forcément quasi obligatoire avant de rentrer dans un cabinet financier, parce que vous ne rentrez pas comme ça from scratch sans avoir fait un an, voire deux ans d'expérimentation. J'apporte juste ce petit soupçon de choses du tout petit chef d'entreprise, parce que je pense que si on réfléchit, il y a plein de domaines quand même où la toute petite entreprise, elle n'a pas encore les moyens, tu sais, qui compte chaque salarié qu'elle va prendre vraiment à l'avenir. Elle n'est pas dans cette optique-là. Donc attention quand même.
On verra. Pour l'instant, rien n'est arbitré. Il n'y a même pas vraiment de pistes solides qui remontent de l'exécutif. Mais il va se passer des choses sur l'apprentissage. Et moi, j'ai pris un pari, c'est que cette année, pour la première fois, je pense que le crédit d'impôt recherche va morfler dans le budget 2025.
Alors, il était temps.
Bon, est-ce qu'il marche?
Pas vraiment.
On fera le débat, Agnès, quand il sera vraiment attaqué. C'est un pari que j'ai pris complètement audacieux parce que j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la deuxième niche fiscale après celle des emplois à domicile en France.
Sachant que nous, c'est pas une niche fiscale, hein. C'est une création, c'est un accompagnement à la création d'emplois et à la sortie du. C'est pour ça que ça devrait pas s'appeler une niche fiscale. Bon. Les niches emploi, c'est pas la même chose que
niche fiscale. Je vous fais juste la photographie de BPI France Rexecode qui sort une étude régulière pour voir comment vont les PME. Vous allez me dire si vous vous retrouvez dans cette photographie. 1, la trésorerie, c'est mieux, ça s'améliore. 2, les intentions d'investissement des PME baissent. Peu, mais baissent. Il y a assez peu de PME qui peinent à accéder au crédit. C'est plutôt une bonne nouvelle. La difficulté à recruter, problème numéro 1. Premier frein à la croissance, ça reste la difficulté à recruter. Et puis, plutôt bonne nouvelle sur le terrain des retards de paiement qui reculent, mais qui restent au-dessus de leur moyenne historique. Est-ce que c'est une photographie qui correspond à une réalité qui est la vôtre ? Ou que vous observez? Ouais.
Alors moi, je suis à la fois conseiller de la Banque de France au niveau départemental et élu MEDEF dans les territoires. Effectivement, c'est quelque chose que l'on voit de façon générale, mais avec des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Un point qui est quand même extrêmement important, c'est le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État qui ont été faits pendant le Covid et qui sont une vraie problématique pour un certain nombre d'entreprises qui expliquent peut-être, voire très certainement, les baisses d'intention sur les investissements, parce que quand vous devez rembourser vos PGE, ben c'est autant de moins qui part pour de l'investissement. Voilà, et effectivement, le frein numéro un qui reste la difficulté de recruter, ça c'est dans quasiment tous les secteurs, difficulté de recrutement aujourd'hui, difficulté de fidélisation, difficulté avec le taux d'absentéisme qui a explosé dans de façon générale.
C'est un mystère, ça, le taux d'absentisme qui a explosé.
Alors,
Vous
allez me dire, Agnès.
Moi, je pense que c'est pas un mystère, le taux d'absentéisme qui explose. Il est lié aussi à je pense, le choc après Covid.
Oui, mais dire le choc après Covid, Covid, c'était quand même en 2020. Là.
Oui, mais parce que ça a changé vos, ça a changé les perceptions de beaucoup de gens et,
non, je pense que oui,
et le lien au travail.
Oui, je pense que oui, effectivement. Ça a dû... l'absentisme, vous arrivez à comprendre vraiment pourquoi il a explosé de manière incroyable.
Dans l'analyse qui est faite des questions de santé au travail, d'exposition aux risques psychosociaux, on voit bien que l'absentéisme, il est de deux ordres. Alors, je laisse de côté les affections longue durée, hein, parce qu'évidemment, ça, c'est autre chose. Mais il y a ce qu'on appelle les absentéismes de respiration, qui sont des moments, en fait, où les personnes s'absentent juste pour souffler un peu, parce qu'il y a une densification du travail. Ça ne touche pas le temps de travail, mais il est beaucoup plus compact. Il y a beaucoup moins de respiration.
Ça a vraiment changé, ça travail est devenu plus compact en 2021, 22, 23.
Pas en 2021, 22, 23. Je pense qu'il y a eu aussi des effets de bord. Et par exemple, on voit qu'avec le développement du télétravail, qui est une bonne chose dans un certain nombre de cas, mais les journées sont beaucoup plus s'enchaînent sans espace de position. Enfin, les gens qu'on a avec qui on a des entretiens disent qu'ils décollent pas leurs fesses de leur chaise et des yeux de l'écran toute la journée.
En fait,
ça fait 10 ans qu'il y a une intensification du travail, et le Covid a eu un effet effectivement de révélateur par rapport à ça. Et il y a un très bon bouquin que je vous recommande qui s'appelle Le travail pressé de Volkov et Godard, qui décrit cette intensification et qui est accentuée par le fait qu'il y ait des difficultés de recrutement, donc des difficultés à intégrer les nouvelles personnes qui arrivent sur l'entreprise, et donc les personnes aussi ne restent pas parce qu'elles sont pas bien intégrées, parce qu'il n'y a pas le temps de le faire, et des difficultés organisationnelles avec aussi les épidémies de reporting qui sont une très mauvaise solution.
Bon, voilà,
petit message à l'ensemble des managers.
Je suis frappé de cette volte-face du monde du travail en l'espace de 2-3 ans.
Et puis l'impact du télétravail, à un moment, il faut quand même en parler. Le télétravail, ça peut être bien pour certains collaborateurs, c'est quand même une explosion de la cellule du travail et des relations qu'on peut y créer. Et ça crée, c'est pas forcément très positif pour beaucoup de gens, le télétravail. Et
donc, il y a beaucoup d'entreprises qui en reviennent, notamment aux États-Unis.
Et inversement, familialement, Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens, j'écoutais Agnès, moi j'ai beaucoup de gens qui aujourd'hui ont la sensation de travailler plus en télétravail chez eux que quand ils sont au bureau, parce qu'il y a moins d'interactions sociales. Quand je dis interaction sociale,
avant de me faire insulter,
il y a des réunions, il y a des moments d'échange, des moments de création qui ne sont pas forcément prévus, mais qui sont toute cette émulation dont on a besoin dans nos entreprises. Bon, voilà, quand vous êtes chez vous tout seul, et à part ramener le petit le soir, le matin, et le récupérer le soir, toute la journée tout seul dans son environnement privé, qui est normalement un environnement de loisirs et de famille. Moi, je suis convaincu que ça aussi, ça bouffe un peu les gens.
J'avance. Alors oui, la séquence fiscale. Séquence fiscale. Non, parce que j'ai quand même demandé à mes... Mais je crois que je vais le faire. Je vais demander à mes invités qui se sont lâchés quand même la semaine dernière. Je leur ai dit d'ailleurs, un jour on se fait 15 minutes de baisse de dépenses et pas simplement 15 minutes de prélèvement. Alors voilà ce qu'ils m'ont proposé. C'était réparti entre mercredi et jeudi, je crois. Et c'est pas tous des audios gauchos, qui ont le réflexe forcément impôt.
C'est pas mal d'être à gauche, vous savez.
Non, mais c'est pas mal, mais c'est pas forcément le gaucho qui est forcément là, vouloir taper sur le riche parce que c'est la meilleure solution. Donc, taxer le patrimoine du 1% le plus riche a été proposé, d'imiter la TVA en remontant les taux réduits, aligner la CSG des retraites sur le reste de la population. Les retraités en peuvent plus de cette émission. Ils se font taper sur la tête en permanence, ils me l'écrivent d'ailleurs. L'histoire de la suppression de l'abattement de 10% pour frais professionnels, dont bénéficient également les retraités. Sous-indexer les pensions de retraite, encore eux, en 2025. Taxer plus l'héritage. Ou rétablir la taxe d'habitation. C'était Robin Rivaton, la taxe d'habitation, par exemple. Et c'était Robin Rivaton qui disait qu'il fallait démiter la TVA. Et hostile, Guillaume.
Ouais. Il y aura toujours, je pense que sur les concours de l'épine de l'innovation, sur la fiscalité, je crois que les Français sont champions du monde.
Les élus ont plein d'idées aussi. Taxer les rachats d'actions.
Donc il y a plein de choses.
Les rentes infra-marginales.
On trouvera toujours. Je pense que le vrai sujet, il est plutôt de comment est-ce qu'on fait pour réduire les dépenses. Comment est-ce qu'on fait pour que l'État se concentre exclusivement sur ses fonctions régaliennes. Est-ce que l'État doit être un opérateur dans plein de secteurs? Je ne pense pas. Est-ce que l'État ne doit pas se contenter d'assumer ses fonctions régaliennes? Pourquoi est-ce qu'on a créé les États? Pour se défendre, pour se protéger. La première chose, c'est pour se protéger. Pour se protéger des agressions extérieures.
Donc
pour se protéger
police,
entre nous.
Oui.
Le police, la justice. Après, pour avoir des règles qui soient à peu près équivalentes. L'État, il est là pour protéger le faible contre le fort. C'est la raison numéro un. Et pour avoir des règles à peu près équivalentes en termes de concurrence. Est-ce que, une fois que l'État a défini les règles qui font qu'il y a la protection de l'ensemble de la population, qu'il y a le contenu qui permet de réguler les différents acteurs entre eux, est-ce qu'il doit aller plus loin et devenir lui-même opérateur ? Par exemple, est-ce que l'école... Moi, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que l'école doit continuer à avoir une partie publique ? Est-ce que le programme ne doit pas être de ressort de l'éducation nationale ? Le programme, le suivi de son application, on voit très bien que l'école privée marche aussi très bien. Il y a des très bons... il y a des très bons établissements privés, il y a des très bons établissements publics, il y a des très mauvais établissements privés, il y a des très mauvais établissements publics. Est-ce que l'État ne ferait pas mieux juste de donner le cadre, de dire comment ça doit se faire, et après laisser des opérateurs faire. Pareil pour l'hôpital. Il y a des très bons hôpitaux publics, il y a des très mauvais hôpitaux publics, il y a des très bons hôpitaux privés, il y a des très mauvais hôpitaux privés. On donne un cadre, et derrière, les acteurs agissent,
sont en concurrence, sont et en c'est concurrence, la concurrence qui fait les ménages.
Et là, on peut avoir un État qui se concentre sur ses fonctions régaliennes, et donc on baisse de façon effective une dépense concentrant l'État sur ce qui doit être le cœur de l'État.
Ça veut dire que l'État n'a pas vocation à produire de l'électricité, n'a pas vocation à faire rouler des trains, rouler des métros, rouler des bus, n'a pas
vocation à
définir les
règles
et de la télé.
Il a vocation à définir des règles
et le pouvoir est central.
N'a pas vocation non plus à animer des centres commerciaux dans les aéroports, par exemple.
Par exemple.
Ça faut peut-être que bon. Donc voilà, la solution. On fera un jour un spécial dépense. Alors je sais pas. Personne ne va vouloir venir dans l'émission.
Non, mais juste là-dessus.
Agnès, par rapport à ce qu'a dit.
Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a un problème dans cette démonstration, c'est que aujourd'hui, c'est peut-être un tort, mais c'est un autre sujet. Les entreprises privées, elles ont un objectif de profit.
Oui.
Alors que l'État n'a pas d'objectif de profit. D'ailleurs, l'hôpital s'est dégradé à partir du moment où on a commencé à penser que l'hôpital devait fonctionner comme une entreprise. Ce qui ne marche pas, parce qu'en fait la question c'est le service, c'est la santé des gens, c'est pas de savoir si c'est rentable ou pas rentable. Donc et là-dessus, et comme pour les infrastructures d'ailleurs, on parle souvent de comparaison internationale. Regardons les comparaisons internationales, notamment les infrastructures ferrées qui sont extrêmement coûteuses à mettre en place, non pas et coûteuses sous plein de points de vue, et notamment la question de l'accès aux terres, etc. Ce sont des choses qui, dès qu'elles ont été privatisées à l'étranger, sont tombés parce qu'il y avait un problème d'entretien de l'infrastructure. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont soit trop coûteux, soit ne doivent pas être au prisme du profit, qui méritent d'être public. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, il peut y avoir une délégation de services publics. Il faudrait que l'État, mais je l'ai dit un certain nombre de fois depuis que je viens ici, que l'État soit un petit peu plus costaud et véritablement se forme et investisse sur le contrôle, le cahier des charges, etc. Mais encore une fois, je pense pas que ça concerne ni la santé, ni les infrastructures, et encore moins la culture.
Il peut y avoir des arbitrages.
Et dans le même sujet,
à partir du moment où il y a du contrôle, c'est jouable. À partir du moment où on renforcerait les conditions de contrôle, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
On l'a vu dans les EHPAD.
On l'a vu dans les EHPAD. Qu'est-ce qui a dérivé ? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de contrôle. Et il y a des très bons EHPAD privés, il y a des très mauvais. Et pareil dans les publics.
Oui, mais quand il y a pas assez de contrôle, le verre est dans le fruit. Oui,
le profit, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les entreprises à mission, qui n'ont pas qu'un seul objet qui est la profitabilité, mais qui ont aussi des objectifs de mission. Et donc là, on a un moyen de réconcilier.
Rapidement, parce que je veux qu'on dise un mot de la BBC à la française avec Agnès, je lui ai promis, on a 2 minutes 40. Donc
très rapidement, 45 secondes pour répondre à votre question sur la fiscalité, impôts. Non pas sur les charges, et on fera une autre.
Mais on fera une réforme
sur un autre sujet, parce que là, je pense qu'on ne serait pas du tout d'accord tous. Sur les impôts, Nicolas, une règle fondamentale, quoi qu'on fasse, s'il vous plaît, on le fait de façon ponctuelle. La spécificité de la France, et j'élève la voix, c'est que quand on fait quelque chose de ponctuel, les 1% supplémentaires pour les plus riches, entre guillemets, pour les auditeurs qui ne me voient pas, il faut que ce soit ponctuel une fois. Le problème en France, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait de la CSG, des prélèvements sociaux supplémentaires, et CRDS, à chaque fois, comme par hasard, boum, 20 ans plus tard, on le retrouve là. À chaque fois. Donc la première règle, si vous voulez rendre compétitif l'outil impôt pour combler à un moment donné, c'est pas ce que je partage comme idée, un trou dans le budget, il faut que ce soit ponctuelle. Et deux, il faut faire très très attention à ne pas faire de la centralisation et de la globalisation des règles, parce que ce serait encore une erreur. Un exemple pour notre ami Rivaton, si vous remontez les taux de TVA réduits en ce moment, c'est le dernier truc qui manque pour enfoncer la tête de tout le secteur immobilier une dernière fois, et de tout le secteur de la restauration, qui sont les deux plus gros pourvoyeurs d'emplois et qui sont en galère totale. Je finirai là-dessus, comme ça...
Une minute trente pour marier Radio France et France Télé. Le sujet est dans les mains de l'Assemblée nationale et défendu par Rachida Dati, Agnès Michel. Il faut droit au but, parce que là, le timing est...
Plusieurs problèmes, il n'y a pas de stratégie, on ne voit pas très bien à quoi ça correspond. Il y a un problème aussi, la mutualisation d'une chose qui est, et vous êtes bien placé pour le savoir, la radio, c'est pas la télé, et inversement, ce sont quand même des médias différents, avec des propositions différentes, et avec des auditeurs différents.
BFM Business, c'est radio-télé. Hein.
Mais enfin, c'est pas tout. Justement, vous voyez bien. D'ailleurs, on n'est même pas maquillés, donc on voit bien la différence. On nous regarde pas. C'est ça l'intérêt. Donc on se concentre beaucoup plus sur ce qui est dit que sur la tronche des personnes. Et bon, c'est très bien comme ça.
C'est très bien comme ça.
Et donc pas de stratégie, des métiers qui sont différents. Et puis le cœur du problème n'est pas abordé. Si vraiment il y a un problème d'argent, très bien, on arrête toutes les productions de passer systématiquement par des producteurs privés. Là, il y a une manne d'économie énorme. On internalise un certain nombre de postes qui coûtent très cher avec l'intermittence du travail qui n'est pas toujours légitime dans un certain nombre de postes. Mais arrêtons de faire n'importe quoi. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'avoir une BBC justement à la française qui dégrade son contenu, qui n'offre plus une variété de réflexion, de culture brute. Effectivement, elle sera peut-être pas rentable, mais c'est ce qui permet l'émancipation des personnes. Et je pense que si on s'assoit là-dessus, on va créer une génération de personnes qui seront prêtes, tout simplement, qui n'auront plus d'esprit critique et qui seront prêtes à suivre le premier leader Maximo qui va se présenter. Et ça, c'est un vrai risque. Et la culture publique, c'est un vrai barrage.
Grève 23 et 24 mai des syndicats de Radio France qui pensent qu'ils seront les perdants de l'histoire. Il y a cette leader qui met sans maquillage,
parce
vous êtes
qu'ils sont
tous
pas maquillés.
Plus beaux.
Voilà quelqu'un
sans maquillage, vrai,
vous êtes tous tout à fait d'accord.
Bon, j'ai eu beaucoup de réactions sur la voiture individuelle. Waouh, vous allez faire un carton fin août avec
sortie de route. Mais écoutez, on va revenir, on va faire une spéciale
voiture individuelle. On fera une spéciale sortie de route, on va faire une spéciale baisse de la dépense publique. Et la réforme de l'État.
Et surtout, penser à la culture.
Oui.
C'est quand même ce qui nous rend plus humains.
Je suis d'accord que sur les missions régaliennes, il peut y avoir un débat pour savoir si ça, oui, non. Ok. Mais il y a quand même des évidences. Par exemple, avec gérer des magasins dans les centres commerciaux des aéroports.
De toute façon,
pas trop la mission.
Le centre commercial,
Sortez du centre commercial. Sortie de. Bon, c'est fini. Merci Agnès Michel. Guillaume Richard, Stéphane Van Uffel. Je crois qu'on a fait le programme que j'avais annoncé presque.
Eh bien, bravo.
Pour une fois.
Eh ben, quelle efficacité.
Rendez-vous demain, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.